création
on air.
On air.
On air.
Creation on air.
Bonsoir. Au bord de la nuit se pressent les étoiles, les peurs, le désir, les sueurs, les fantasmes. Et partout, sous toutes les latitudes, ce territoire parfois terrifiant, le territoire des rêves. Nous avons des rêves récurrents. Ceux qui nous font hurler, ceux où nous voulons demeurer à jamais. En certains pays, ces rêves sont plus précieux que la vie. Pour Barbara Carlotti, le rêve a longtemps été remisé dans la case carnet secret ou objet de psychanalyse. Ce soir, elle pose l'hypothèse que le rêve est un réel recomposé, un réel augmenté de l'imaginaire, une réalité parallèle que son cerveau perçoit, fait revivre, sans contrainte morale, sociale ou physique. Une projection à double sens qu'il faut traverser pour redonner du sens aux incohérences de la vie. N'allez pas vous coucher, attendez-nous.
Création on air. Laboratoire onirique, Barbara Carlotti.
Je faisais des cauchemars chaque nuit. Il y en avait un qui revenait si souvent que j'en ai noté une version. Cette nuit, un rêve d'une extrême violence. Le phono repousse sous son voile. Soudain, musique, sans que j'aie bougé. Il y a un disque sur le plateau. Il tourne. Je manœuvre le bouton d'arrêt, impossible de l'arrêter. Il tourne de plus en plus vite. L'aiguille ne peut pas suivre. Le bras prend d'extraordinaires positions. L'intérieur du phono ronfle comme une chaudière. On voit des espèces de flammes et le luisant du disque noir affolé. Tout va exploser. Une rébellion magique incompréhensible. C'est un dérèglement de tout.
When you dream very real. Very real, everything seems real in a dream.
Depuis ma plus tendre enfance, mon activité onirique a pris une grande place dans ma vie. Je note mes rêves, je les considère avec beaucoup de respect et d'affection. C'est une vie parallèle que je mène la nuit, pendant mon sommeil. Une vie libre et mystérieuse, fantasque et fantastique, qui a une grande influence sur moi pendant la journée. Si mes rêves sont joyeux et enjoués, mon énergie sera décuplée. Si d'affreux cauchemars m'assaillent, je peux rester longtemps après le réveil, hanté par ces visions nocturnes angoissantes.
Entre la naissance et la mort, un tiers à peu près de notre existence est retranché de notre vie active et consacré au sommeil.
Étrangement, j'ai toujours séparé ma vie onirique de ma vie réelle. Et même si avec la psychanalyse, j'ai pu essayer de créer des liens et de comprendre le sens caché de certains rêves, je n'en faisais rien. Je les laissais dans un carnet, alors même qu'il constitue un tiers de mon existence. Je ne m'y intéressais que comme à des secrets mystérieux qu'on garde précieusement dans un coffre, ma boîte de Pandore.
Que se passe-t-il quand nous dormons ?
Dans mes périodes les plus agitées, mes rêves se font plus denses, plus fournis. Je peux parfois me souvenir de 4 à 5 rêves dans la même nuit. Des rêves d'une richesse incroyable où je peux trouver la matière à des mélodies, des paroles de chansons, des visions. Un cinéma obscur de mon inconscient.
Faut pas oublier que le corps endormi est un corps vulnérable.
Il y avait ce cauchemar. Un cauchemar récurrent qui d'année en année revenait, devenait de plus en plus prégnant. Il fallait m'en débarrasser ou en trouver la clé. Clé des songes, clé des champs. Quelle porte ouvrirait-elle et sur quel espace?
Le bureau des rêves perdus.
Aujourd'hui, nécessité impérieuse, il me faut réconcilier la part diurne et la part nocturne de ma vie. Tenter de percer le mystère, entamer un dialogue, donner du sens aux mots bredouillés pendant le sommeil, parler une langue nouvelle, décrypter les ondes alpha, bêta, theta. Science des rêves et matière de création, pour mes nouvelles chansons dont je vous livrerai la primeur de quelques maquettes.
N'allez pas vous coucher, attendez-nous.
Il s'agit de radiodiffuser les principes de la rêve.
C'est bien de parler de rêve, c'est bien de parler de rêve.
Le rêve est-il un réel recomposé, un réel augmenté de l'imaginaire, une réalité parallèle que mon cerveau perçoit et fait revivre sans contrainte morale, sociale ou physique? Une projection à double sens qu'il faut traverser pour redonner du sens aux incohérences de la vie?
Écoute, il y a du grain à moudre, hein. Merci.
Ce soir, j'aimerais mener une expérience intime et collective et ouvrir les portes d'un laboratoire onirique, miroir sonore du rêve, scientifique, littéraire et musical.
Je pense que c'est très rêveur, effectivement.
Nous tenterons alors de répondre de manière poétique à une question simple et jamais élucidée. Pourquoi le cerveau produit-il des rêves? À quoi servent les rêves?
Il y a presque toujours une rêverie permanente, en dehors de la pensée précise.
Traversons sans tarder le miroir sans teint de cette réalité à la fois familière et singulière. Donnons corps aux théories de Gaston Bachelard, faisons de la radio une voie d'accès à la rêverie. Tentons toutes les expériences oniriques.
Le rêve, c'est le lieu où rien n'est interdit, où le jeu peut continuer.
Tentons toutes les expériences oniriques.
Va, va au fond de toi-même.
N'allez pas vous coucher, attendez-nous.
C'est Claude Delpuech qui nous introduit et nous accompagne à l'INSERM. Claude est ingénieur de recherche classe exceptionnelle, IRCE, directeur du département MEG à l'Institut National de Santé et de Recherche Médicale.
De l'INSERM, qui appartient au Centre de recherche en neurosciences de Lyon. Et donc, nous allons aller rendre visite à Perrine Ruby.
Bonjour. Bonjour. Bonjour, Barbara.
Perrine Ruby, chercheuse au Centre de recherche en neurosciences de Lyon, dans l'équipe d'ICOG, équipe dynamique cérébrale et cognition.
Mon sujet de recherche, c'est le rêve, ce qui est très vaste et très mal défini. Moi, le rêve qui m'intéresse, c'est le rêve qu'on fait la nuit, a priori, pendant qu'on dort, sur lequel on n'a aucun contrôle la majorité du temps. Il y a un côté très mystérieux et il préoccupe les hommes depuis que le monde est monde.
Je pense que l'homme de Cro-Magnon, qui vivait il y a à peu près 30 000 ans à Lascaux, il y a cette fameuse scène du puits dans laquelle on voit un sujet couché et en érection. C'est pas une erreur. Et ce qui conforte l'idée que c'est peut-être un peu ce rêve, c'est qu'on voit un petit oiseau qui sort à côté. L'oiseau, ça représente évidemment l'esprit qui quitte sa tête.
La définition du rêve dans le dictionnaire, elle parle de ce sentiment de quelque chose qui s'est passé pendant le sommeil. Cette histoire qu'on a en tête le matin quand on se réveille, dont on a le sentiment qu'elle vient de la nuit qui précède. C'est une expérience subjective dont on se souvient a posteriori.
Nous sommes faits de la même étoffe que nos rêves et notre petite vie est enveloppée de sommeil.
Comme l'imagination crée de délicieuses féeries alors qu'elle règne en absolue souveraine, affranchie de tout ce que la vie positive a d'exigences et d'empêchements, abandonnée sans nulle réserve à toutes les magnificences de l'idéal. Les cauchemars, les monstres, les terreurs indicibles suscitent parfois, il est vrai, de très pénibles émotions, mais
silencio.
Que de régions enchantées, que d'apparitions charmantes, que
silencio.
De délicieux et de sensations d'une vivacité inouïe.
Silencio.
Qui nous font regretter parfois au réveil la trop courte durée de la nuit.
We'll wake up. No. No.
It's okay, it's okay.
Quand on rêve, on est certain que l'on ne rêve pas.
Ça, c'est un carnet de 2001, 17 juin 2001. Cette nuit, je me réveille. J'ai fait un rêve et je me suis rappelé ce cauchemar, je l'ai fait 100 fois. Je me suis rappelé des autres à la seconde où j'entamais celui-là. Toujours la même hantise, toujours le même mystère. Je suis couché, je m'endors. Je suis à Clamart dans la chambre, en haut, celle du milieu. Je le sais à cause du Velux qui est fermé. Mais cette fois, il est ouvert.
Je dors. Longtemps. 2 ou 3 heures. Puis, un rêve. Non, un cauchemar m'étreint.
Je m'endors et tout d'un coup, je sens un poids très lourd m'écraser.
Je sens bien que je suis couchée et que je dors. Je le sens et je le sais. Et je sens aussi que quelqu'un s'approche de moi, me regarde, me palpe, monte sur mon lit, s'agenouille sur ma poitrine, me prend le cou entre ses mains et serre de toute sa force pour m'étrangler.
Je fais la morte, je suis morte. Morte de peur, je n'ose bouger.
Moi,
je ne sais pas qui c'est, quelqu'un de très lourd.
Je me débat, lié par cette impuissance atroce qui nous paralyse dans les songes.
J'essaie de penser tout à coup que ce cauchemar, je l'ai fait 100 fois.
Je veux crier.
Toujours ce même rêve.
Je ne peux pas. Je veux remuer. Je ne peux pas. J'essaie, avec des efforts affreux, en haletant, de me tourner, de rejeter cet être qui m'écrase et qui m'étouffe.
Je sais que j'ai peur depuis longtemps de cela.
Je ne peux pas.
Comme si je ne m'étais pas réveillée, je suis pétrifiée, je reste horrifiée.
Et soudain, je m'éveille, affolée, couvert de sueur. J'allume une bougie, je suis seule.
Toujours ce même rêve.
Après cette crise qui se renouvelle toutes les nuits, je dors enfin avec calme jusqu'à l'aurore.
Pour avoir cette idée, pour faire ce cauchemar terrible, est-ce qu'il faut avoir vécu cela ? Maquette numéro 1, vampire.
Faut pas oublier que le corps endormi est un corps vulnérable.
Ombre, rôdeur ou vampire. Ombre que le dormeur attire. Mouvante, souterraine imprécise. Envahisse le corps de la nuit. Je ne trouve pas ton péristyle. Oh, sommeil, je tourne autour de ton empire. Ombre, rôdeur ou vampire. Ombre que le dormeur attire. Mouvant souterraine imprécise se glisse tout autour de mon lit. Oh, présence, laissez-moi. Est-ce un délire? Oh, c'est pas étouffé dans le noir. Sans bouger, sans respirer.
Alors, le prix du meilleur gémissement de douleur de l'histoire du cinéma est attribué à...
Jason Tantra. Je peux pas me lever. Je peux pas me lever. Je suis collé au siège. Je suis collé au siège. Je suis collé là. Je suis collé au siège. Je suis collé.
Collé.
Ceux qui ont un cycle de sommeil, un bon cycle de sommeil, sont tout de même plus dispo pour bien des choses.
Rien n'empêche un cerveau d'endormir le corps quand le corps est d'accord.
Eh bien, supposons quelqu'un qui s'endorme à 10 heures du soir.
Le premier stade est la transition de l'état de veille à la somnolence, durant laquelle la pression sanguine baisse, le cœur bat plus lentement et les muscles se détendent. Le cerveau émet des ondes alpha à une fréquence de 7 à 14 cycles par seconde. Ce stade dure d'habitude 5 ou 10 minutes tout au plus.
Le cerveau, c'est quand même une des structures probablement les plus compliquées du corps humain. Donc.
Le deuxième stade commence avec l'émission d'ondes θ, de 3 cycles et demi à 7 cycles et demi par seconde, avec des fuseaux de sommeil et des complexes K. Ce stade ne dure également que quelques minutes, et alors on voit se développer une lente émission d'ondes delta, qui marque le début de l'inconscience proprement dite.
Et les gens tombent d'un échafaudage, ils tombent dans la rue, ils tombent au volant de leur voiture. Paf !
Le troisième stade est un stade intermédiaire où les ondes delta n'interviennent encore que pour moins de la moitié de l'enregistrement de l'électroencéphalogramme. Le quatrième stade débute quand les ondes delta se mettent à prédominer. Le dormeur a peu de mouvements corporels et est difficile à réveiller. Le quatrième stade correspond au sommeil le plus profond et le plus reposant. Certains chercheurs l'appellent le noyau du sommeil. Dans le sommeil lent, c'est plus compliqué presque à voir.
Alors c'est parce que les ondes sont très grandes et il y a une activité de base qui est très importante. Donc il faut enlever le bruit naturel du cerveau, qui bizarrement doit être un bruit de consommation minimale d'énergie.
Après peut-être une demi-heure ou trois quarts d'heure de cet état, on remarque des mouvements corporels et des changements de position. Le quatrième stade s'est interrompu. Le dormeur revient très brièvement au deuxième ou troisième stade, puis on entre vite dans ce qu'on appelle le sommeil à mouvement oculaire rapide.
Cette phase est dite paradoxale parce que c'est au moment où le sujet est le plus séparé du monde extérieur, où il perçoit moins les stimulations venant de ce monde extérieur, qu'il a l'activité cérébrale la plus intense, à la fois du point de vue de l'activité électrique du cerveau et du point de vue de la circulation cérébrale.
En fait, ça ressemble davantage à l'état de veille qu'au sommeil.
Donc il y a là un paradoxe.
Le tonus musculaire disparaît, mais il y a une intense activité cérébrale et les yeux roulent en tous sens sous les paupières fermées.
Nous sommes exclus du monde et pourtant notre cerveau a une activité intense. C'est une espèce d'éveil, si vous voulez, sur le monde intérieur, alors que dans la journée, nous sommes plutôt éveillés sur le monde extérieur.
Ce cycle entier, du premier stade au sommeil paradoxal, a pris environ 90 minutes et se répète avec certaines variations, 4 ou 5 fois durant la nuit.
Le sommeil paradoxal a été découvert par Michel Jouvet, ici à Lyon. Assez rapidement, quand ils ont découvert ce stade de sommeil, il a été associé au rêve, parce que quand ils réveillaient des personnes pendant qu'elles étaient en sommeil paradoxal, ils avaient beaucoup de rapports de rêve. Cette hypothèse a été dominante pendant quasiment 50 ans. Mais elle exagérait la réalité. Effectivement, on a beaucoup de rapports de rêve après des réveils en sommeil paradoxal, mais on a aussi des rapports de rêve après des réveils en sommeil lent. Il l'avait déjà observé au départ, mais en fait, il trouvait que l'écart était tellement grand que les rapports de rêve en sommeil lent étaient négligeables. Et puis, en fait, les recherches qui ont suivi ont montré que ce n'était pas du tout négligeable. En fait, il y a 50% des réveils en sommeil lent qui sont suivis d'un rapport de rêve.
Le bureau des rêves perdus.
13 mai 2014, le rêve des assassins du lac. 18 juillet, rêve du fleuve Congo et des opéras arrangés dans des cartons. 15 avril, le rêve du réveil dans un lit, un homme, un chat, un enfant. Rêve du 12 au 13 juin 2015, Rêve du champignon sur le doigt de pied. Rêve de Bertrand Belin. All I do is dream of you.
On fait aussi des études de psychologie expérimentale. On essaye de mieux comprendre le contenu du rêve. Donc là, c'est des questionnaires que les gens remplissent. Et puis on fait aussi de l'électrophysiologie. On met des électrodes sur la tête des gens. Ils dorment aussi au laboratoire, mais dans un lit. Là. C'est pas un scanner, du coup c'est moins contraignant pour dormir.
Dream.
L'électrophysiologie, c'est l'électroencéphalographie, donc, qui existe depuis le début du siècle, soit la magnétoencéphalographie, ça c'est le domaine de Claude ici à Lyon. Donc c'est deux techniques qui enregistrent l'activité électrique résultant de l'ensemble du cerveau. Donc sur le scalp avec des petites électrodes, ça c'est l'électroencéphalographie. Et la magnétoencéphalographie, ça mesure les champs de courant, en fait, l'activité magnétique qui résulte de l'activité cérébrale.
Ça nous permet de savoir ce qui se passe à l'intérieur de la tête, sans avoir du tout à ouvrir quoi que ce soit, ni à coller d'électrodes sur la tête du sujet. Les champs magnétiques, c'est quelque chose qui existe autour de nos têtes absolument en permanence. Hein, donc pendant toute notre vie, on se promène avec son champ magnétique au cours de sa tête.
Éruption falsifiée, clé des songes, charlatanisme obscur. Le vide est sans doute moins étourdissant que ses danses acrobatiques. Des paroles passaient, c'était un vol triangulaire et furtif.
Il n'y avait donc plus rien à faire qu'à marcher sans but.
Manchester. Fin des années 70, dans une ville sombre du nord de l'Angleterre, cinq rêveurs créent un label.
When I wake up early in the morning, lift my head, I'm still yawning when I'm in the middle of a dream. Stay in bed, float upstream,
float upstream.
Please don't wake me, no, don't shake me, leave me where. Everybody seems to think I'm lazy. I don't mind. I think they're crazy, running everywhere in such a speed. Till they find there's no need.
There's no need.
Please don't spoil my day. I'm miles away, and after all, I'm only sleeping.
Enregistrement live numéro 1.
Keeping an eye on a world going by my window, taking my time, lying there and staring at the ceiling, waiting for the sleepy feeling.
Le procès de la connaissance n'étant plus à faire, l'intelligence n'entrant plus en ligne de compte, le rêve seul laisse à l'homme tous ses droits à la liberté. 29 août, je rêve du Kronos Quartet, concert solo de guitare, soirée saucisse et gurvan. Après avoir rendu visite à Judith, à tôt ou tard, je rencontre dans les loges de l'Olympia des musiciens sympathiques qui y donnent un concert le soir même. Je pars m'occuper de mes affaires, mais je promets de revenir les écouter le soir. Je pars à travers les champs, les gerbes sont hautes, et je perds un temps fou à traverser cet endroit. Un cours d'eau au milieu des champs. J'arrive en retard au concert, ils ont déjà commencé et je me perds dans les couloirs. Alors j'arrive au moment de l'entracte. Et puis c'est Mick Jagger qui chante sur scène avec le Kronos Quartet. Il y a un très beau guitariste qui ressemble à Justin Timberlake et qui fait un solo de guitare extraordinaire. Il lance sa guitare qui se fracasse dans un son magnifique sur le dernier temps de la dernière mesure du solo. Je suis absolument subjuguée. Ensuite, c'est Patti Smith qui arrive et reprend une chanson de variété italienne des années 90. Les spectateurs au balcon sont pris de l'irrépressible envie de se balancer de droite et de gauche.
Qu'est-ce que tu fous ?
Il s'agit de radiodiffuser les principes de la République.
Il est super tard, qu'est-ce que tu grondes ?
J'ai pas vu le temps passer. Putain, le rêve débile.
On est bien, je suis fatiguée, moi.
Hey. Je te raconte ce rêve de taré.
À demain, si tu veux, j'ai un créneau libre entre 11h et midi.
Mais non, mais je vais te le raconter comme ça, pas pour analyser.
Demain.
Oui, allô, oui. Allô, qui est à l'appareil?
Oui, c'est Barbara Carlotti.
Ah, enfin.
Philippe, est-ce que tu rêves?
C'est quoi la question?
Comment tu rêves la nuit? Est-ce que tu rêves la nuit?
Ah oui, oui, bien sûr.
Philippe Catherine.
Je rêve la nuit. Il y a beaucoup de choses qui me reviennent, hein, donc j'ai des facilités à retrouver mes rêves. Je les raconte pas trop, mais quand même, je les reconnais bien.
On a essayé d'enregistrer l'activité cérébrale de personnes qui se souviennent souvent de leurs rêves et de personnes qui s'en souviennent rarement. Peut-être qu'on va réussir à mieux comprendre déjà la question du souvenir de rêve.
Pour se souvenir des rêves, différentes conditions sont vraisemblablement nécessaires.
Après avoir beaucoup écouté de scientifiques et lu plusieurs ouvrages, j'ai senti le besoin impérieux de compléter cette recherche sur les rêves en interrogeant des amis et des artistes. Je me disais « tout le monde rêve, mais si tout le monde rêve, personne ne rêve de la même manière ». Est-ce que tu rêves, Cécile Paris ?
Écoute, oui, je rêve, Barbara. Je rêve énormément.
Et comment rêves-tu ?
Eh bien, ça, par contre, je pense que je ne rêve pas la nuit. Ou sûrement, je rêve la nuit, mais étant donné que je ne me souviens pas de mes rêves, jamais, je pense que je rêve en marchant. Je rêve en regardant des livres, des images, des expositions, en écoutant la musique. Non, c'est vrai que je ne me souviens jamais de mes rêves le matin. Mais vraiment jamais, c'est dingue. Par contre, des fois, il y a une ambiance dans mon réveil.
Allô, Barbara ?
Oui ?
Est-ce que tu rêves ?
Très souvent, je ne m'en souviens pas, mais je ressens profondément que j'ai rêvé.
Barbara Israël ?
Parce que je suis quelqu'un d'autre. C'est un rêve qui a été prégnant, m'a habité, au sens où je ne pense pas que les rêves s'envolent, je pense qu'ils restent en nous comme un livre qui s'écrit à côté de nous, presque à notre insu.
Alors évidemment, la question du souvenir de rêve, ça mélange souvenir et production. C'est-à-dire, pour se souvenir d'un rêve, il faut à la fois l'avoir fait et puis aussi s'en souvenir ultérieurement. Et c'est pas parce qu'on se souvient pas d'un rêve, donc on n'en a pas fait.
Nuit du 12 au 13 mars, j'ai rêvé que j'étais la réincarnation féminine de Kurt Cobain.
Il y a un rêve récurrent, c'est aussi lié à la musique, mais je me retrouve souvent enfermé dans des amplis sur scène. Et c'est parfois extrêmement désagréable. Et souvent, on a une musique très violente. Mon pantalon bouge, et mon cœur à l'intérieur de mon corps. Ah oui, ça bouge.
Les gens qui se souviennent souvent de leurs rêves ont des périodes d'éveil un peu plus longues au cours de leur sommeil que ceux qui s'en souviennent rarement.
J'ai un sommeil assez profond. J'aurais du mal à raconter un rêve, moi, tu vois.
Se réveiller pendant son sommeil, c'est tout à fait normal. Nous, les personnes qu'on a fait dormir au laboratoire étaient toutes en bonne santé, n'avaient aucun problème de sommeil. Et tous leurs paramètres de sommeil étaient dans les normes. C'est simplement que le groupe de ceux qui se souvenaient plus souvent de leurs rêves avait tendance à avoir une quantité d'éveil cumulé plus importante pendant leur sommeil, et qu'on s'est rendu compte que c'était pas tant que les éveils étaient plus nombreux que les éveils étaient plus longs. Mais c'est de l'ordre de 2 minutes versus 1 minute. Et c'est tout à fait normal, et on s'en souvient pas nécessairement. Ça colle très bien avec une hypothèse qui a été proposée en 1976 par des auteurs américains, Kulak et Gouninoff, qui ont dit, mais finalement, à chaque fois qu'on a essayé de présenter des mots, par exemple, pendant le sommeil de dormeurs, qu'on leur a demandé à leur réveil s'ils se souvenaient des mots qu'on leur avait présentés, on n'a jamais obtenu de résultats positifs. C'est-à-dire que quand on présente des informations pendant le sommeil, les gens ne s'en souviennent pas quand ils se réveillent. Donc ils se sont dit, si on ne peut pas se souvenir d'une information nouvelle qui arrive pendant qu'on dort, il faut bien pouvoir se réveiller pour se souvenir d'un rêve, puisque le rêve, c'est bien une information nouvelle qui arrive pendant qu'on dort. Donc ils ont proposé cette hypothèse-là en disant, pour pouvoir se souvenir d'un rêve qu'on a fait, il faut se réveiller au moment où on fait le rêve, et puis un temps suffisamment long pour que le cerveau enregistre l'information.
Turn around. Give your lips and only say you will.
En vérité, ce qui est intéressant dans les résultats qu'on a obtenus, nous, c'est qu'il y a une dimension de mémoire qui intervient, mais ce n'est pas de capacité de mémoire, c'est d'opportunité de garder une trace en mémoire. Donc le système de mémoire fonctionne tout à fait bien chez les deux catégories de personnes, c'est juste qu'il y en a certains qui ont à disposition leur capacité de mémoire juste après qu'ils rêvent. Et les autres, en fait, ils restent endormis, donc leur système de mémoire est endormi, donc ça ne fonctionne pas. Donc ça a été la première information importante qu'on a obtenue après cette étude-là. Et le deuxième résultat important, ça a été de constater que ceux qui se souviennent souvent de leurs rêves, ils ont une réactivité cérébrale qui est plus importante que ceux qui se souviennent rarement de leurs rêves. C'est comme si leur cerveau réagissait plus à ces stimuli qui viennent de l'environnement et qui sont inattendus, en fait.
Rêve du 7 septembre. Raph et Laurent accompagnent Christophe, le chanteur Christophe, pour une émission de télé. Ils jouent tous les deux de la basse et se regardent en faisant des breaks hyper rapides. Lui, Christophe, il chante une chanson sur les tampons. Il dit « Non, mais les tampons, quoi !» Laurent et Raph sont très complices. Christophe ?
Ça va, Barbara ?
Ça va ? Je te dérange pas ?
Je suis chez un ami en train d'essayer son Bösendorfer impérial.
Ah, fantastique !
Écoute, écoute. Ça va ? Ah ouais, c'est dingue. J'avais complètement oublié.
Tu m'avais dit t'étais sur ton bateau.
Ah, mais j'ai quitté le bateau, j'ai fait beaucoup de choses aujourd'hui, mais je ne vais pas t'expliquer. Je vais te parler du rêve. Je vais peut-être me mettre comment... Là, tu m'entends bien ? Là, peut-être je vais me mettre dehors.
Ouais, je t'entends très dehors. Bien.
Et comment ça, tu m'entends bien ? Bon, voilà. Je me jette dehors, là. Et voilà. Là, je suis au paradis, donc on va faire une très bonne interview. Et alors, bon, il y a le rêve qui m'arrive souvent, c'est le rêve où je suis... comment... Tu sais, c'est peut-être ma peur de l'avion. Je suis en fait, je tombe de très très haut dans le vide, tu vois, comme ça, je suis réveillé, tu vois. Et ça, c'est un très mauvais rêve, tu vois, très mauvais rêve. Bon, sinon, je rêve quand même pas mal, tu vois, de cul quand même. Tu vois, ouais, pas mal. Et ouais, cette nuit, je sais que j'ai rêvé, d'une fille, qui est plutôt jolie, brune, tu vois, que j'approchais comme ça, que je voulais attraper absolument. Et en fait, elle me disait comment... Elle n'était pas d'accord, tu vois. Et alors, je lui disais, tu sais, tu devrais demander à, comment, à ta copine, là, qui est une bonne copine, comment je fais ça, et comment peut-être qu'après, tu auras envie. Pour l'attraper, quoi, tu vois.
N'importe qui peut voir un sujet masculin en état de rêve en le regardant s'il est couché sur le dos. Tout simplement, d'abord, il va être en érection.
Madame rêve d'atomiseurs et de cylindres si longs qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur. Madame rêve d'artifices, de formes oblongues et de totems qui la punissent. Rêve d'archipel. Sismique et sensuelle.
Enregistrement live numéro 2.
Freud. Plus on s'occupe d'interprétation des rêves, plus on doit reconnaître que la plupart des rêves des adultes ont trait à des faits sexuels et expriment des désirs érotiques. Le fait n'a rien d'étonnant, il n'y a pas de pulsion qui ait été depuis l'enfance aussi souvent comprimée que la pulsion sexuelle. Aucune autre ne suscite autant et d'aussi forts désirs, désirs inconscients qui agissent dans le sommeil en produisant des rêves. On ne doit jamais oublier pendant l'interprétation cette importance des complexes sexuels. Naturellement, s'il ne faut pas l'exagérer, jusqu'à ne voir plus que.
Madame rêve ad libitum, comme si c'était tout comme dans les prières, qui emprisonne et vous libère. Madame rêve d'apesanteur, des heures de voltige, plusieurs.
15 juin 2008. Je suis dans mon lit, dans mon appartement. Je suis dans ma chambre. Il fait sombre. Je sais que je suis en train de dormir. Je sens une présence. Je suis terrifiée. J'essaye de me retourner pour voir de qui il s'agit. J'essaye de me retourner, mais mon corps est totalement paralysé. Pas tourner la tête, j'essaye de bouger, je sens une main s'enfoncer dans mon épaule, j'arrête de respirer, puis je me réveille étouffée, avec la sensation toujours présente que la personne est encore dans la pièce. Je pense à un fantôme, je crois au fantôme, je me mets à croire au fantôme à cause de ce rêve, et je reste une heure dans la chambre, à imaginer qu'il y a une présence. Puis je me lève, je vais vers la porte d'entrée vérifier que la porte est bien fermée. Je vais dans la salle de bain regarder si la fenêtre de la salle de bain est bien fermée. Je retourne à mon lit, je regarde sous le lit. Puis je me dis que je suis bête et je me demande s'il faut vraiment croire aux fantômes.
Quand on rêve, on est certain que l'on ne rêve pas.
Oui, et donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais comme rêve ?
Voilà, allô ?
Allô ?
Bonjour.
Bonjour, vous êtes sur France Culture.
J'adore.
Ça va, Flavien ?
J'adore ce numéro de téléphone.
Alors, est-ce que tu rêves, Flavien ? Et si oui, de quoi tu rêves ? Et quel rapport tu entretiens entre tes rêves et ta façon de composer de la musique ou d'écrire ?
Je rêve pas autant que j'aimerais, mais je rêve et...
Flavien Berger.
Alors oui, je rêve. Je rêve pas autant que j'aimerais, mais je rêve à des moments charnières où je change de rythme de sommeil. Et dernièrement, je me suis rendu compte que la plupart du temps, mes rêves étaient en fait des préparations de rêves. Le dernier en date, c'était des grandes pièces où les gens étaient en train de scénographier, de construire les costumes, de construire les décors du rêve qui allait être la suite de ce que je vivais. En tant que musicien, je rêve beaucoup moins de sons qu'on pourrait l'imaginer. Après, il m'arrive de vivre des situations où je me rends compte que mes mélodies et que mes chansons existent ailleurs ou viennent de quelque chose de tangible. Par exemple, la dernière fois, je l'ai noté, j'ai rêvé que, en fait, mon morceau « Rue de la Victoire » avait été écrit et interprété dans les années 80 par Franck Ribéry.
je regardais une vidéo YouTube où en fait il la chantait, il avait les cheveux longs et il était hyper touchant. Et en fait, bah oui, en fait, c'est sa chanson, c'est pas la mienne. C'est comme si je donnais une autre histoire à des morceaux que j'aurais pu composer. Je suis pas comme Aphex Twin qui lui compose ses morceaux avec des synthés modulaires dans ses rêves et quand il se réveille, il repatche tout pour que ce soit le cas.
On trouve tout et son contraire dans le contenu du rêve. Il y a un peu des éléments du rêve qui font référence au vécu du rêveur, mais il y a aussi beaucoup de choses qui ne font pas référence. Il y a des choses qui font référence à des choses émotionnelles et puis d'autres non. Il y a des choses récentes, des choses anciennes. Voilà. On continue à avoir beaucoup de mal à comprendre ce qui détermine l'incorporation, par exemple, d'un événement vécu dans le contenu du rêve, ce qui pourrait bien sûr nous aider beaucoup pour la compréhension de son rôle.
Je rêve en train de chanter une chanson que je ne connais pas. Alors là, j'ai la chance de m'en souvenir, donc je le renote. Et il y a la mélodie et tout ça, et les mots. Je reconstitue après à mon éveil. Ah, il y en a beaucoup, hein. Il y en a peut-être, je sais pas, 2 ou 3 par disque à peu près.
Tu travailles en dormant ?
D'ailleurs, je travaille beaucoup plus en dormant qu'éveillé. J'ai une chance.
Quand j'ai appris que vous souhaitiez faire un portrait sur moi cet après-midi, j'ai prévu de dormir pendant.
Benoît Forgeat.
Tout simplement, c'est aussi l'une de mes façons de travailler, l'une de mes méthodes. Je m'explique, il se trouve que j'ai mis au point depuis plusieurs années avec le CNRS un système qui me permet de transcrire directement mes idées sur cet ordinateur et à l'aide de ce masque de sommeil. Il s'agit d'une connexion USB, USB 2, reliée ici par un cordon spécial et que je relie ensuite à ce masque de sommeil de fabrication taïwanaise. Il ne me reste ensuite plus qu'à me mettre en position de sommeil dans ce fauteuil. Et si les choses marchent bien, eh bien, j'aurai tout à l'heure sur cet écran, à ma gauche, plusieurs idées.
Qu'est-ce que c'est que l'apparition d'une idée créative ? Alors, il y a des moments très particuliers qui doivent se produire. Il y a un moment donné où l'idée jaillit de quelque chose qu'on a envie de faire, puis après, il y a la phase de réalisation. Un compositeur, je pense, dans le monde de la musique, l'idée, c'est un phénomène qui est relativement bref. Et puis après, il faut composer autour de tout ça. Je pense que c'est deux mécanismes qui sont assez différents.
Maquette numéro 2, phénomène composite. Rêve du 19 mai, le rêve des filles avec des petits pénis à la place du clito.
Tu vois, c'est une chanson en pastille. Le mystère de l'amour est là. Toutes les femmes sont hermaphrodites. Le futur nous affecte comme ça. Viens dans ma chambre que je t'explique. Je suis sûre que tu apprécieras. C'est un phénomène composite. Tu aimes hommes et femmes à la fois. Viens dans ma chambre.
D'abord, je suis avec deux filles, une avec les deux sexes, et je fais l'amour avec elle. Elle a un petit sexe d'homme et une chatte. Elle a un complexe à cause de son double sexe. Je jouis quand elle me sodomise. Et puis, il y a une autre femme qui, elle, semble plus proche. Elle la rassure, lui parle de son corps, du fait qu'elle peut avoir les deux sexes, que ça ne la gêne pas, au contraire.
Et un truc, un exemple, assez fou de rêve. J'ai fait l'année dernière un rêve et je me suis réveillé, j'étais à Grimont. Et je me suis réveillé à 6h30 du matin, brutalement, avec un air qui me trottait dans ma tête. J'ai pris mon iPhone qui était à côté de moi et j'ai enregistré la mélodie et je me suis recouché. Et à midi, quand j'ai réécouté la mélodie, tu sais ce qui m'est venu, je me suis dit, putain, ça c'est un truc, j'ai rêvé, tout un peu kitsch, tu vois, mais avec un son quand même que je voyais un petit peu électro quand même. Et je me suis dit, ça, c'est pour Patrick Sébastien.
Et une fois qu'on a cette idée, on va la développer. D'un seul coup, on a cet éclair qui dit, ben voilà, c'est comme ça que ça va s'organiser. Et après, on l'organise.
Alors attends, j'ai pas fini. Donc, il y a un mois, je reviens dans ce rêve, je reprends la petite maquette que j'avais enregistrée, tu vois, avec même l'idée des textes, du texte et tout ça. Et je fais la maquette un peu électro. J'envoie à la femme de Patrick Sébastien, parce que je n'avais pas ses coordonnées à lui. Un mois après, Patrick m'écrit, j'ai encore regardé le SMS, là. Il dit, j'ai écouté ta chanson, ça déchire, je vais la faire. Ouais, ça c'est génial. J'ai rêvé un truc, une musique, mais ça m'arrive assez souvent, des mélodies. Mais là, j'ai rêvé un truc. Je me suis réveillé, je me suis dit, j'ai eu l'image et le son de Patrick Sébastien, tu sais, comme quand il fait la fête à la fin de ses émissions, tu vois.
C'est un rêve de pouvoir travailler de cette façon, quoi.
Dans 3 mois, dans 6 mois, Patrick Sébastien et moi, on aurait collaboré pour un truc comme ça, qui vient complètement d'ailleurs, mais qui est une réalité, quand même, en fait. Voilà. Un rêve qui devient une vraie réalité, quoi.
La nuit et le rêve, ça a très longtemps et encore actuellement, c'est considéré comme une période de repos non productive.
Les heures de repos, les heures de calme, l'heure de la rêverie profonde.
N'apporte rien d'un point de vue cognitif, où c'est pas là qu'il se passe des choses. Et de plus en plus, on est en train de revenir là-dessus. Et c'est vraiment exactement ça, un mode de fonctionnement différent qui est tout à fait... aussi important et aussi informatif que le fonctionnement à l'éveil. Très probablement, on a besoin de cette balance entre ces deux types de fonctionnement pour bien fonctionner à l'éveil. Et une des hypothèses sur les fonctions du rêve, c'est ce qui pourrait apporter en créativité à l'esprit éveillé.
Donc le rêve nous amène des images inattendues, incongrues,
blutch,
inhabituelles, un peu comme le surréalisme nous proposait des images en dehors du cours, on va dire, naturel des choses.
Après un rêve, 27 août, rêve du matin. J'avais un accident de mobylette extraordinaire. Je roulais et le guidon se démontait progressivement, si bien qu'en montant une côte très abrupte dans une rue qui surplombe la ville, je fais un demi-tour pour éviter de me planter dans la rambarde et d'être éjecté dans le vide. Je me projette contre le trottoir en prenant soin d'éviter la personne qui se trouve dessus. La mobylette se retrouve plantée dans la rambarde en hauteur. Puis, épaté par cette sculpture de métal qui se détache dans le ciel, je regarde l'horizon. Le temps de me relever, les gens commencent à prendre des photos sur leur portable. Ça m'agace un peu, car c'est mon œuvre, c'est mon accident.
Samedi 24 janvier 1925. Le monde de mes rêves est un monde minéral, dallé de pierres et bordé d'édifices, sur le fronton desquels je lis parfois des sentences mystérieuses.
C'est un décor dans lequel j'évolue, une chose un peu récurrente, et l'idée ne me vient pas de redécorer.
C'est une longue suite d'esplanades, de galeries et de perspectives à travers lesquelles je me promène, comme dans un espace entièrement abstrait, dépouillé de toute réalité terrestre. Le fil à plomb, le compas, la balance y sont maîtres. Car ce monde nocturne est pour moi beaucoup mieux organisé que celui de mes veilles. La poursuite d'une pensée, son élucidation par la dissection minutieuse des mots qui la formulent, la recherche des axes de l'esprit, toute tentative de défi au vertige, cela, je ne puis guère l'effectuer que dans mes rêves, quand je ne suis plus qu'un point mathématique se déplaçant le long d'une ligne, dans le désert de la cité pavée de mots.
Je n'ai pas encore pu savoir jusqu'à présent ce qu'est exactement le rêve, je me le demande toujours. Cependant, pour moi, le rêve est une des formes du penser, un mode du penser. C'est-à-dire qu'il me semble dans chaque individu coexiste deux modes de pensée. C'est de penser dirigé, de penser qui est dirigé vers un but donné, qui est par conséquent logique, qui est cohérent, et une autre forme de pensée qui est une forme statique du penser, qui est de penser non dirigé. C'est une sorte de juxtaposition par plaque d'images ou de quelque chose de semblable. Ce pensée non dirigé a plusieurs formes, il est aussi bien à l'état de veille, et la forme extrême est celui du rêve.
Moi, j'aurais plutôt tendance à pencher vers cette hypothèse de rôle du rêve dans la créativité, et que si d'un côté, pendant le sommeil, il y a des réseaux qui ont été utilisés pour un apprentissage et qui sont réorganisés pour être plus optimaux, ça c'est une chose. Mais peut-être que le rêve, ça nous parle d'une autre activité du cerveau pendant le sommeil, qui, alors qu'il stabilise des choses, il essaie d'en déstabiliser d'autres. Et c'est vrai que c'est assez étonnant d'imaginer qu'il puisse faire deux choses en même temps et deux choses aussi contradictoires, mais c'est parce que la conscience est faite de telle manière qu'on peut avoir conscience que de ce dont on a conscience.
Dr. Holt told me you dream a great deal. In what language do you dream in?
In English, most of the time.
What is the Blackfoot word for dream?
Papouka.
Pour les sociétés amazoniennes, ce qui se passe la nuit est extrêmement important. Ce n'est pas seulement le moment où le soleil se couche, ni le temps du sommeil. Il faut alors s'attendre à ce que quelque chose se déroule la nuit, à l'insu des endormis. Ce que l'on connaît le mieux de la nuit amazonienne est en effet le chamanisme. La nuit offre au chaman le moment le plus adéquat et propice pour la communication avec les esprits, humains et non humains. Dans les descriptions de cures, les rêves sont fréquemment évoqués, car ils fournissent au chaman le diagnostic nécessaire à la guérison. D'ailleurs, nombreux sont les cas où l'appel chamanique a pour origine un rêve. Celui-ci est souvent présenté comme un voyage à travers plusieurs mondes étagés, du monde subaquatique à plusieurs voûtes célestes, en incluant l'intérieur des montagnes et des lagunes. Tous abritent des esprits différents que les chamans et les bons rêveurs sollicitent et visitent. Dans ce cas, le rêve est un monde de relations directes tant avec des pères qu'avec d'autres sujets humains et non humains, animaux ou esprits, du passé ou du présent.
Je ne sais pas si notre civilisation occidentale a une idée uniforme, mais certainement les primitifs n'ont pas une idée uniforme. Il y a certaines caractéristiques qu'ils ont en commun. Par exemple, la tendance de ne pas trop clairement distinguer entre le rêvé et le vécu. Nous avons la télévision, le cinéma, les romans, etc., pour avoir des expériences imaginaires. Eux, ils n'ont que le rêve.
Fantasmes, hallucinations, images obsédantes, effets hypnotiques.
Un rêve, c'est comme un mal rêve. When you dream very real.
Je sais que c'est un cliché de dire que les films sont les rêves d'un inconscient collectif, mais il m'a semblé que personne n'avait jamais vraiment pénétré cette idée à fond. Il y a diverses sortes de rêves, n'est-ce pas? De même qu'il y a des films d'horreur qui correspondent aux cauchemars, et des films cochons, comme Gorge Profonde et Emmanuel, qui correspondent aux rêves érotiques.
Le rêve peut permettre de créer des images insolites, inattendues, insensées, inquiétantes, fantastique.
Nicolas Thévenin.
Prise dans un montage désordonné qui rompt le déroulement prévisible du récit. Où est le réel? Où est la fiction? Où est la fiction dans la fiction?
On ne peut pas prévoir ce qui va se passer. J'aime bien ça, ce côté dans le rêve. Enfin, je veux dire l'exploration. Je ne sais pas ce qui m'attend derrière la porte. Je ne peux pas le prévoir.
La caractéristique de l'incohérence du rêve, c'est de faire des incohérences à l'échelle des souvenirs et des représentations d'une personne. Donc quand on essaye de reproduire des incohérences à l'image, en fait, ça donne juste une impression superficielle de bizarrerie. Mais pour ressentir cette bizarrerie qu'on peut ressentir le matin au réveil quand on vient de faire un rêve, c'est complètement impossible, parce que la bizarrerie qu'on ressent, c'est le contraste entre une expérience vécue de notre vie qui est une situation habituelle et qui est confrontée à quelque chose qui n'a rien à voir, mais qui est aussi un autre souvenir. C'est une expérience qui, intrinsèquement, et centré sur soi.
Sans pour autant cesser d'emprunter les voies de la perception ordinaire, les images de cinéma se donnent comme celles d'un rêve.
Tout film est donc un rêve, et tout rêve serait un film.
Elle dit : je rêve que tu ne cesseras jamais de me chercher.
Comment je trouve le chemin qui me ramène dans l'obscurité ?
Les ténèbres, le silence, le désert ne répond pas.
Elle dit, suis l'étoile, the lost highway.
Suis-la jusqu'à la fin.
Effectivement, il a une dimension poétique et artistique d'une manière ou d'une autre. Moi, ce que je trouve si remarquable, c'est son pouvoir d'interrogation. Il interpelle complètement et il nous bouscule de toute façon.
Le rêve, c'est
C'est le congé payé par l'existence. C'est notre grotte magique, c'est notre pierre philosophale qui nous permet la transmutation de toutes les valeurs.
Maquette 3. Lorsqu'étendus sur un lit plus ou moins confortable, nous nous abandonnons au sommeil, nous atteignons alors un monde singulièrement plaisant. Nous sommes alors libres de toute contrainte et nous nous mouvons avec la plus grande agilité au milieu de situations inextricables.
Ce qui est aussi le charme du rêve, il nous échappe, il est irréductible. C'est la poésie du truc aussi.
La contrainte corporelle, la contrainte sociale, la contrainte morale disparaissent. Je flotte au-dessus des campagnes, je tue ces hommes méprisables, je cohite à ma guise, libre et sans préoccupation.
Ça t'ouvre une porte vers toi-même et vers la liberté à la fois, qui est un extra-toi qui te porte vers l'infini.
Les rêves ont toujours été pour moi non pas simplement de fugaces événements nocturnes, mais des mirages et des encouragements à résister à toutes les vexations et aux pressions sociales.
On peut tout à fait imaginer que le rêve, ce soit un mode de fonctionnement du cerveau qui permette de casser tous les chemins et de refaire des liens complètement farfelus qui seraient susceptibles de rendre donc le cerveau plus flexible et plus adaptable en cas de besoin.
Chaque fois que je puis trouver trace de rêve dans quelque œuvre que ce soit, je suis prête à toutes les concessions. Le merveilleux, qu'il soit d'origine scientifique, littéraire, religieuse, m'a toujours captivée.
Le rêve inconscient, c'était une zone où la rencontre est possible.
C'est comme un voyage, c'est un changement de regard.
C'est-à-dire que je pense que le rêve, c'est un état dimensionnel, quoi.
Ça dit bien plus long que la réalité.
Car à chaque victoire de l'imagination sur le réel, un des liens qui retiennent notre esprit se détache et tombe.
Mais il faut que l'homme, chaque jour, recommence et cette puissance de fantasme, eh bien, il la trouvera dans le fond de son inconscient.
La libération commence, et déjà, on en aperçoit toutes les conséquences formidables. Ce soir, vous avez pu entendre Un rêve de Simone de Beauvoir, un extrait des rêves et les moyens de les diriger du comte Hervé de Saint-Denis, du Horla de Guy de Maupassant, des chants magnétiques d'André Breton, de la préface à la révolution surréaliste de Paul Éluard, de la maison du sommeil de Jonathan Coe, un rêve de Michel Léris, la faculté des rêves de Sarah Strisberg, un extrait du journal de Raymond Queneau. Mais aussi des archives d'Alfred Hitchcock, de Michel Jouvet, de Jeannette Bouteau, Gaston Bachelard, Benoît Forgeard, William S. Burroughs, Tristan Tzara et Georges Devreux. Tout ce que tu touches. Mais encore, des extraits de Mulholland Drive, de David Lynch, Réalité de Quentin Dupieux, Vanilla Sky de Cameron Crowe, Jimmy P. d'Arnaud Desplechin. Et tout le reste, conception, montage, récit, mots, sons et musique, était issu de mes rêves, à l'exception d'un titre d'Aphex Twin, Héliophane, des reprises live de I'm Only Sleeping des Beatles et Madame Rêve d'Alain Bachung et deux improvisations avec au clavier et chœur Benjamin Esdrafo, aux guitares et chœur Olivier Marguerie et Jean-Pierre Petit. Anne Stephens et Jean-Pierre Petit ont prêté leur voix de rêve pour la lecture des textes. Merci à Claude Delpuèche et Perrine Ruby de l'INSERM. De tout ce que merci à Cécile Paris, Barbara Israël, Philippe Catherine, Christophe, Flavien Berger, Nicolas Comand, Nicolas Thévenin et Blotch. Prise de son, Éric Boisset, Chantal Nouvelot, Dalia, Pierrick Charles, mixage Pierrick Charles, réalisation Marie-Laure Ciboulet, coordination Inès De Bruyne et Irène Omelianenko, une création en air de Barbara Carlucci.
Demain, à 23h sur France Culture, rendez-vous avec Manu Farine qui nous fera partager le monde du poète John Giorno et entendre Christian Bernard, directeur du MAMCO à Genève. Dans Création en air, la semaine prochaine, Philippe Garrel ou L'enfance de l'art par Thomas Lescure.